n'étaient pas suffisantes pour comprendre les parcours des élèves. Il faut faire intervenir d'autres variables, comme par exemple la position dans la fratrie, comme l'effet générationnel, comme aussi l'effet mobilisation familiale, qui n'est pas forcément totalement dépendant de la structure sociale. Donc ça, c'est intéressant peut-être aussi à verser d'une certaine manière aussi au débat. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a privilégié plutôt aussi une lecture sociologique de l'expérience des migrants. Je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, l'intervention précédente, parce que je dirais peut-être en plus qu'il y a effectivement des traditions nationales, c'est-à-dire qu'on pose le problème du parcours des élèves en fonction des modèles théoriques et peut-être aussi de la culture d'un pays en question, mais il peut y avoir aussi des questions sur, par exemple, l'influence de certains modèles théoriques à un moment donné de la recherche sociologique, notamment sur ces questions. Alors, je reprends quand même un peu ce que disent deux sociologues que vous connaissez, enfin trois sociologues qui travaillent un peu sur ces questions-là, des collègues d'ailleurs de l'Université Paris-Lumière, qui soulignent, donc Maïtena Armeniag, Isabelle Rigoni, Simone Intersigny, qui soulignent que l'approche sociologique de l'expérience des enfants issus de migration privilégie l'étude des parcours des descendants, donc l'approche plutôt ce qu'elles appellent une approche adultocentrique, et s'intéresse peu aux jeunes migrants. Alors, c'est une manière aussi de dire que ce volet-là de l'expérience, c'est-à-dire comment les jeunes migrants construisent aussi, qui est un public, notamment, ça a été évoqué sur les publics migrants non accompagnés, par exemple, comment ils vivent aussi cette expérience scolaire dans le cadre d'une expérience migratoire. Et donc, l'approche, elle est évidemment plus dynamique et demande davantage d'être d'autres modèles d'investigation, qui est d'ailleurs un des sujets sur lequel travaille Maïtena Armeniag actuellement, puisqu'elle supervise un grand projet ANR qui porte aussi sur ces questions-là, et dans lequel la question d'orientation occupe une place importante. Donc, je dirais ici, le propos, quand on travaille sur l'orientation, mon propos porte sur l'orientation des élèves migrés ou issus de l'immigration. Je propose ici une lecture qui part d'abord dans un premier temps des données statistiques croisées avec l'expérience subjective des élèves. Alors j'insiste beaucoup au risque de me répéter sur cette tension-là entre les données statistiques et l'expérience subjective, qui est évidemment une expérience également sociale, contextuelle, située, parce que il me semble que ça permet aussi, quand on croise ces deux entrées, ça permet aussi de comprendre des dynamiques qui ne sont pas réductibles ni à une approche strictement biographique, par exemple, ni une approche strictement statistique, puisqu'on sait aussi les limites d'un modèle de strictement quantitatif. On peut donc considérer que l'orientation est un analyseur de la diversité des parcours et des manières d'être aux études, et je dirais tout à l'heure, s'il me reste un petit peu de temps, je reviendrai un peu sur la question du lycée professionnel, je faisais d'ailleurs la même hypothèse, il m'a semblé que le lycée professionnel en France, c'est un analyseur des contradictions de nos systèmes éducatifs, des avancées, mais aussi des impasses parfois de ce qu'on appelle la démocratisation scolaire. Alors, quelques données qui mériteraient à être réactualisées, mais simplement sur les élèves allophones nouvellement arrivés, qui est une catégorie étudiée de plus en plus par les chercheurs, mais aussi qui est devenue une catégorie statistique dans le statistique institutionnel. Et vous savez, en France, on a toujours eu une certaine difficulté à parler justement ou à identifier ou à quantifier les élèves issus d'immigration ou les élèves donc nouvellement arrivés parce qu'il y a toujours ce modèle de l'école républicaine et donc l'école ne reconnaît pas les différences. L'école, évidemment, elle s'adresse à tout le monde de la même manière, ce qui quand même est discutable parce que ça veut dire aussi, bien sûr, on peut le comprendre, mais en même temps, ça veut dire qu'on n'a pas toujours une visibilité très claire de ce qu'on entend justement par ces populations et par le public qu'on veut étudier. Et on se rappelle qu'il y a eu un livre qui avait fait date et qui avait suscité pas mal de débats, et d'ailleurs c'était très intéressant, c'était le livre de Georges Feluzzi et Joël Perrotan il y a quelques années. Ils avaient sorti un livre qui s'appelle « L'apartheid scolaire » qui est paru en 2005 et dans lequel ils avaient fait une étude justement sur l'ethnicisation de certains collèges de la région de l'Académie de Bordeaux, en partant du prénom des élèves. C'est une manière aussi de contourner un peu ce genre d'invisibilité institutionnelle. Donc, ces élèves, on voit un accroissement, les statistiques manquent un accroissement des publics nouvellement arrivés, qui rentrent d'ailleurs dans une catégorie qui aussi interroge, à savoir ce qu'on appelle les élèves à besoins éducatifs particuliers, hein, pour que les élèves puissent avoir, par exemple, des soucis en français quand ils arrivent, donc avec de nombreux questionnements, hein, nombreux questionnements sur qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'on fait de leur parcours antérieur avant de rentrer dans la langue ou l'apprentissage de la langue. Alors, un premier point donc, que j'ai intitulé « Appréhender l'orientation », je vais être un peu schématique de façon à ne pas prendre trop de temps, pour donner quelques pistes un peu de cette réflexion. Appréhender l'orientation, comment appréhender l'orientation des élèves issus de l'immigration ? Dans un premier temps, il me paraît important de souligner qu'il convient de penser l'orientation des élèves à partir du fonctionnement même de notre système éducatif, hein, qui est un système très hiérarchisé, dans lequel s'insèrent d'ailleurs des trajectoires inégales selon l'appartenance sociale et culturelle, socio-économique, disait la collègue tout à l'heure. On sait aussi que le système éducatif fonctionne comme une machine à trier, hein, c'est vraiment une machine à trier, une machine à orienter, censé accompagner chaque élève pour réaliser son projet d'études. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, de ce que j'appelle, en reprenant à d'autres cette expression de distillation fractionnée, que l'orientation s'opère. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on peut dire de façon générale sur le discours institutionnel et politique, à savoir que l'orientation, c'est vraiment la réalisation d'un projet professionnel ou projet scolaire de l'élève ou de l'étudiant, c'est dans beaucoup de cas, le projet, l'orientation fonctionne comme une manière de distribuer les individus dans des places, et dans beaucoup de situations, ce qu'on appelle le projet, c'est plutôt le renoncement, hein, donc derrière cette organisation de l'orientation, il faut partir aussi du fonctionnement de l'orientation en général pour comprendre l'orientation des élèves issus de l'immigration ou migrants dans ce système scolaire. Alors, par exemple, quand on prend les statistiques, la première chose, je le disais tout à l'heure, on voit clairement que les enfants issus d'immigration, alors selon les pays, on va le voir, ne s'orientent massivement ou sont orientés massivement vers les filières technologiques ou professionnelles, donc on retrouve des choses assez proches de ce que disait la collègue en Italie. Et du coup, ça pose la question de quels sont les critères qui interviennent dans cette orientation. Est-ce qu'ils ne sont que strictement scolaires ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des formes d'autocensure qu'on peut repérer aussi, qui expliquent ces différences, hein ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des formes de ségrégation vécues comme telles quand on introduit l'expérience subjective, puisqu'on a aussi des élèves qui, et je disais tout à l'heure dans mes recherches, il y a des élèves que j'avais rencontrés dans des lycées qui me disaient qu'ils se sentaient comme étant victimes de ce qu'on pourrait appeler une double discrimination. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont été discriminés parce qu'ils ont été d'une double discrimination, on pourrait dire une double injustice, en fait, hein, plus particulièrement. On se retrouve dans le lycée professionnel alors qu'on voulait faire une voie générale. Hein, donc là, il y a le sentiment d'avoir un peu chuté, donc je vais utiliser cette expression, la chute, mais pas seulement pour les élèves issus d'immigration. Et puis, le deuxième ressentiment, c'est qu'ils se retrouvent dans des formations qu'ils n'ont pas demandées. Ils vous disent, j'ai été affecté sur un deuxième vœu, troisième vœu, je voulais faire mécanique automobile, je me retrouve en structure métallique, donc pas du tout le même domaine professionnel. Donc, il y a ce ressentiment. Hein. Et donc, du coup, si on veut comprendre ce modèle, on pourrait dire qu'il y a une partie des élèves issus de l'immigration vivent justement le verdict scolaire comme un verdict moral, d'une certaine manière. On s'en trouve dans quelque chose qu'on n'a pas souhaité, évidemment, préparer. Ça n'est pas le propre que de ces élèves-là, mais ça se vit aussi de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, quand on sait en littérature, en sociologie, on parle du « eux » et de « nous », grosso modo la bourgeoisie ou les dirigeants et nous, le milieu populaire, on va retrouver aussi la catégorie « je suis victime d'eux » parce que je suis issu de l'immigration. Mais ça ne va pas se dire comme ça, mais si vous voulez, il y a un peu ce sentiment-là. Alors, ce qu'on peut dire aussi, et peut-être l'occasion de présenter notre système, et je parle du système du second degré, il y aurait tant à dire aussi sur le supérieur, simplement que l'orientation reste soumise à de nombreux paradoxes qu'il faut ainsi identifier. D'abord, le choix précoce et l'obligation de projet professionnel, hein, qui s'impose aux élèves qui disposent de faibles ressources scolaires, et notamment pour réellement choisir. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui ne comprennent pas très bien comment fonctionne ce système. Donc, c'est la question aussi de l'information et comment l'école parle aux parents. Le système éducatif français est un de ceux qui sont se sont le plus diversifiés. C'est vrai, quand on fait un peu une histoire récente, on s'aperçoit qu'on a multiplié les filières qui s'avèrent être aussi les plus étanches. On ne peut pas passer d'une filière à l'autre facilement, sauf à partir des filières générales vers les filières professionnelles, par exemple. Et celui dans lequel la réversibilité des parcours est les plus improbables. Hein. Un élève qui commence une formation, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, on a un système qui est assez dur, et bien sûr assez dur pour les enfants issus de milieux modestes, hein, bon, dont les enfants issus d'immigration sont plutôt plus majoritaires. Hein. Le poids aussi de la formation initiale qui est des plus déterminants, et un autre élément aussi, ce n'est pas le moindre paradoxe, c'est la forte association entre l'orientation scolaire et professionnelle, à savoir qu'il y a de plus en plus un rapport qu'on peut qualifier d'utilitariste aux études. Et par exemple, de ce point de vue, on constate dans les dernières enquêtes plutôt qualitatives qu'on doit des chercheurs que les enfants issus de l'immigration, les enfants dont les parents de la deuxième génération, par exemple, se détournent de plus en plus d'avoir professionnelle vers les études longues. Et pourquoi ils se détournent? Parce qu'ils voient dans les études longues non pas une sorte de moyen qui va permettre une émancipation intellectuelle, par exemple, mais plutôt maximiser les chances d'insertion professionnelle. Je l'ai vu dans une enquête portant sur des élèves de bac professionnel qui poursuivent des études en BTS, par exemple. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que le constat qui est relatif aux élèves issus de milieux populaires est valable aussi et à plus d'un titre pour ceux issus de l'immigration, même si on observe aussi des stratégies éducatives familiales différentes. C'est l'intérêt du qualitatif, hein, dont je parlais tout à l'heure, de parcours biographique, par exemple. Les projets des parents d'élèves de seconde génération sont plus portés sur la poursuite d'études, ce que je disais à l'instant. Et même si on sait, et vous savez, que le capital culturel, c'était un des vieux enseignements majeurs de Pierre Bourdieu, reste quand même très déterminant dans le parcours scolaire. Hein. C'est évident qu'on le retrouve, et ce n'est pas seulement qu'en France. Lorsqu'on prend donc la variable origine sociale qui se conjugue avec la variable dite origine culturelle, hein, ou migratoire, ce sont d'autres inégalités qui apparaissent. Et je fais ici référence à peut-être une note que vous avez sans doute vue, ou certains ont vue, c'est la note du CNESCO qui avance, s'agissant des élèves issus de migration, qu'on observe une nette surreprésentation de ces jeunes issus des familles immigrées, alors pratiquement 7,9 points dans l'enseignement professionnel, donc ce que je disais tout à l'heure, qu'on retrouve si on prend les statistiques de l'ADEP les plus récentes. Ces inégalités donc diffèrent aussi cependant selon l'origine migratoire. C'est pour ça qu'il est important de faire une histoire aussi du mouvement ou du projet migratoire pour comprendre évidemment ces inégalités ou ces différences. Et donc le même rapport ou la même note du CNESCO montre que les élèves d'origine du Sahel ou d'Afrique, de la Turquie, Portugal, sont davantage orientés vers l'enseignement professionnel, bien que la tendance, ces deux dernières catégories, soit moins nette qu'auparavant. Et donc, ce qu'il faut relever simplement, c'est que quand le CNESCO indique que les analyses économétriques montrent qu'à niveau scolaire comparable et catégories socio-professionnelles comparables, les enfants issus de l'immigration, et en particulier les enfants issus de l'immigration maghrébine, enfin, ou d'origine maghrébine, sont moins orientés vers l'enseignement professionnel que l'enseignement, que les élèves donc, des autres natifs, hein, c'est que là, on voit qu'il y a aussi des changements, comme je disais tout à l'heure, qui sont liés aussi à la perception qu'on a justement de l'enseignement professionnel. Pour comprendre cela, je fais simplement une incise, c'est de rappeler qu'il y a beaucoup de parents qui se détournent, ou de parents d'enfants, enfin, issus de l'immigration, donc d'enfants issus de l'immigration, qui se détournent de la voie professionnelle, parce qu'il y a une histoire familiale et de classe qui a été aussi marquée par la crise de l'industrie. Donc, ce détournement conduit aussi, cette expérience antérieure explique aussi les projets ou les non-projets des jeunes. De ce point de vue, il y a quelques travaux que vous connaissez, qu'on peut rappeler simplement. Déjà, on le voyait dans le livre de Stéphane Beau et Michel Piano sur Retour sur la condition ouvrière. Il montrait déjà en 1999 un peu ce détournement des filières professionnelles chez les enfants dont les parents étaient ouvriers de l'industrie. Alors, deuxième point que je propose, c'est un point que j'ai intitulé donc l'orientation des élèves issus de l'immigration, une diversité des parcours qui combine à la fois l'origine sociale, l'origine migratoire et le genre. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que cette notion de diversité de parcours, on la voit déjà dans une enquête très classique qui avait été d'ailleurs menée par une sociologue que vous connaissez, Yael Birnbaum, qui a travaillé sur le avec l'ADEPE d'ailleurs sur les statistiques et qui montrait que en croisant donc deux panels, celui de notamment de 2007, que sur des élèves, parcours des élèves, donc c'est intitulé trajectoire jusqu'au baccalauréat, elle montre que les élèves issus de la seconde génération, donc il s'agit donc des élèves nés en France de parents immigrés, et hormis les descendants de familles d'origine portugaise ou asiatique, sont moins souvent détenteurs d'un baccalauréat que les enfants français d'origine. Hein, et elle constate aussi la meilleure réussite des élèves, des filles, comparée aux garçons. Donc on peut trouver des régularités, puisque vous savez que les filles réussissent mieux que les garçons, quelle que soit l'origine sociale, en tout cas, ou même culturelle. Mais il y a quelque chose qui est un peu qui interroge, c'est que les récentes enquêtes, et là elle ouvre déjà une discussion dans ce sens-là, montrent que les acquisitions des enfants de la seconde génération se sont encore plus affaiblis qu'avant. Alors, on pourrait dire effectivement, quand on compare les enquêtes PISA, donc de l'OCDE, montre aussi qu'il y a une certaine dégradation des niveaux d'acquisition des élèves. Mais quand même, quand on le voit de cette manière, ça interroge aussi sur les raisons qui expliquent cet affaiblissement des acquisitions qui reproduisent aussi des inégalités ou les renforcent d'une certaine façon. Et du coup, cette même enquête pointait des inégalités selon le baccalauréat obtenu, donc c'est une enquête publiée en 2019, qui tiennent donc au fait que la série préparée, eh bien, elle augure des chances inégales de réussite dans l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire que quand on travaille sur les parcours des élèves, eh bien sur les parcours longitudinaux, laisse apparaître des différences selon l'origine migratoire. Et vous avez ici, par exemple, des données qui montrent que les différences peuvent aller jusqu'à moins 15 points chez les filles originaires du Portugal, du Maghreb, jusqu'à moins 22 chez celles donc issues d'Afrique subsaharienne et de Turquie. Donc là, on voit l'effet cumulatif aussi du parcours. Et il me paraît intéressant aujourd'hui, en termes de recherche, c'est de développer des enquêtes plus qualitatives qui permettent de voir comment les parcours des élèves se construisent aussi au quotidien dans le parcours scolaire. Vous voyez, donc c'est pas seulement la photographie, mais c'est aussi le film d'une certaine manière. Donc les inégalités de réussite conjuguent à la fois ces variables, origine culturelle, migratoire et contexte social et institutionnel. J'insiste sur ce dernier point qui me semble-t-il, mériterait davantage d'investigation pour voir comment se construit dans la boîte noire qu'est l'école ces inégalités. Vous voyez, donc c'est pas seulement l'aboutissement. Notamment des cohortes en particulier. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que ces inégalités de réussite dépendent de ces différents facteurs, comme l'histoire migratoire. On a bien vu l'ère des géographiques et culturelles, dont sont originaires notamment les parents, mais aussi les conséquences d'une discrimination qui n'est pas forcément volontaire. La question qui va se poser, c'est au fond comment ces effets cumulatifs peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Et je reprends ici ce que disait déjà il y a quelques années donc Chokri Benayed sur les élèves en disant les élèves subissent de plein fouet trois types de désavantages qui restreignent donc leur accès à certaines filières d'enseignement ainsi qu'à l'emploi. Ils sont donc à la fois exposés, ils risquent d'être scolarisés dans des établissements scolaires de relégation. Je ne sais pas si vous en avez entendu, mais j'ai entendu tout à l'heure la radio, j'ai écouté une enquête. Il faudrait que je mette la main sur l'enquête en question, mais qui montrait que parfois les différences d'acquisition des élèves pouvaient représenter pratiquement 4 ans dans le secondaire. C'est-à-dire des élèves en troisième, la troisième, c'est la quatrième année du collège, si vous voulez, pour nos collègues et amis italiens. Et en fait, la comparaison montrait que des élèves de. Pouvait avoir quand on compare des élèves de milieux favorisés à des élèves de milieux défavorisés, qui sont scolarisés dans des établissements à recrutement populaire, il peut parfois manquer 4 ans d'études, quoi. C'est quand même assez alarmant, hein. Des élèves au même âge n'ont pas les mêmes acquisitions parce qu'ils ne sont pas scolarisés dans le même établissement. Là, du coup, c'est quand même une question qui n'est pas secondaire. Et donc, pour revenir à ce que disait Choukri Benayed, c'est qu'il y a cette exposition, le risque d'être scolarisé dans des établissements de relégation. Alors, c'est une expression, mais des établissements où on va être un peu moins exigeant avec les élèves, en termes d'acquisition, d'apprentissage. Et lorsqu'il parvient, dit-il, à s'affranchir de ces contraintes contextuelles, même quand ils ont des performances scolaires identiques, ils doivent aussi, dans la plupart du temps, il faut éviter, certains donc sont orientés vers des filières dévalorisées, et quand ils sortent avec le diplôme, ils peuvent être aussi se confronter à la discrimination au marché du travail. Donc ces éléments-là sont de nature aussi à expliquer la difficulté que peuvent avoir les publics dans un contexte concurrentiel et dans un contexte dans lequel, encore une fois, il ne s'agit pas de dénoncer une discrimination volontaire, mais de dire que ces éléments-là sont constitutifs de ces inégalités dans lesquelles le facteur culturel intervient. Et quand on s'appuie sur les enquêtes, les évaluations PISA, donc 2003 à 2012, donc Fellouzi avait montré combien, indépendamment de l'origine migratoire, il y a aussi donc ce qu'il appelle, lui, une discrimination systémique et non volontaire. Et son postulat est le suivant: il existe un lien entre l'accentuation de la ségrégation scolaire des migrants, d'une part, et l'évolution des inégalités d'acquis, d'autre part. Autrement dit, c'est la combinaison à la fois entre justement le fait d'être issu de tel ou tel milieu ou de telle ère culturelle, avec des pratiques pédagogiques qui expliquent ces différences. Et ce constat qu'avance Fellouzi, qui, vous savez, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, eh bien, c'est un constat qui n'est pas très nouveau, puisqu'on le trouvait déjà. Merci Alessandro. Donc je vois bien le temps qui passe. Donc c'est un constat qui n'est pas nouveau, puisqu'on le voyait déjà chez Louis-André Vallée il y a quelques années, en 1996, qui avait fait exactement les mêmes observations. Alors, je vais terminer pour avoir un petit peu de temps pour vous dire un mot quand même sur le lycée professionnel, simplement pour vous dire, en troisième point, c'est que la nécessité de penser à la scolarité des élèves en partant de l'expérience subjective. Pourquoi ? Je pense simplement parce que, comme je disais en introduction, le problème des recherches, c'est que quand on mobilise un modèle qui est celui de la reproduction sociale, on ne comprend pas les devenirs différenciés. Hein, donc, de ce point de vue, j'ai vu des élèves de lycée professionnel qui soient ou pas issus d'immigration, mais en tout cas qui n'étaient pas dans une logique du ressentiment, dans une logique finalement d'être victime d'eux, mais on a aussi cette capacité aussi à connaître des parcours différents qui peuvent être liés au contexte scolaire, qui créent aussi des différences. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas tout expliquer que par l'origine sociale. De la même manière, un autre élément qui apparaît ici, c'est que, par exemple, j'ai repris les travaux de Stéphane Beau et Michel Pialou, je l'ai évoqué tout à l'heure, disent évidemment, dans la mesure où l'orientation au lycée professionnel devient le symbole de l'échec scolaire, le choix des études langues s'est imposé aux parents ouvriers comme la seule voie possible, comme je disais tout à l'heure, pour aller plus loin. Sauf que quand on voit un peu les analyses qui sont faites, elles se focalisent, de mon point de vue, beaucoup plus sur les cas de difficultés scolaires et moins aussi sur les cas de réussite scolaire, et qui existent aussi. Donc, je pense que, de ce point de vue, travailler sur les trajectoires scolaires, travailler sur les raisons qui expliquent des devenirs improbables peut être aussi une manière de lire autrement cette expérience des enfants issus d'immigration. Et donc, l'un des paradoxes qu'on peut relever, c'est que les parents d'élèves issus d'immigration aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, finalement, ils investissent beaucoup les études langues, on le voit clairement. J'ai vu récemment dans une évaluation, je pourrais en parler après, des parents qui disaient, voilà, moi, je préfère qu'il retarde le choix plutôt qu'on lui impose un choix très jeune. Donc, poursuit des études vers les filières générales et puis on verra par la suite. En même temps, est-ce qu'il y a toujours du ressentiment ? C'est là où je m'interroge un peu sur certains travaux. Donc, je disais tout à l'heure sur le sentiment de chute qui est certes très répandu chez des élèves, mais ce sentiment de chute ne conduit pas systématiquement à la résignation. Toute la question est de savoir comment on explique ces mobilisations malgré des conditions sociales et parfois des conditions familiales très difficiles ou très compliquées. De ce point de vue, je terminerai simplement pour dire un mot. Alors, je passe un peu les diapositives parce que vous pourrez l'avoir de toute façon par la suite. C'est qu'en conclusion, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, revenir sur l'approche qualitative des trajectoires scolaires qui met clairement en relief la diversité des manières d'être. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, on reste dans la sociologie, me semble-t-il, ça ne veut pas dire qu'on va surestimer le pouvoir des individus. Ça n'a aucun sens, ce serait absurde. Mais par contre, on va essayer d'expliquer des configurations et des devenirs différenciés en tenant compte d'autres facteurs qualitatifs qui n'apparaissent pas systématiquement. Je pense à une étude qui, malheureusement, n'a pas eu de postérité en France. C'était l'enquête de Zahia Zeroulou il y a quelques années. Je crois qu'un article qui date de 88 déjà sur un raisonnement en termes de mobilisation scolaire, qui avait comparé des familles d'origine algérienne dont des enfants réussissent alors que d'autres étaient plutôt en difficulté, et qui a montré que pour comprendre la réussite ou l'échec scolaire, il faut s'intéresser aussi aux projets familiaux, et donc s'intéresser aussi aux projets migratoires d'installation ou pas, par exemple. Et donc, ça, c'est un point qui mériterait aussi discussion, sans doute aussi des échanges. Donc, je termine en disant, donc c'est le premier point, c'est que la confrontation entre une approche qualitative et une approche quantitative peut donner des éléments intéressants, en tout cas qui ne doivent pas faire l'économie d'une analyse notamment des politiques publiques, hein, ça n'est pas incompatible. Et le deuxième point, puisqu'il me reste un petit peu de temps pour parler du lycée professionnel, pour le lycée professionnel en France, il reste encore, même si on veut le valoriser, il reste encore perçu comme une institution de relégation, hein, c'est-à-dire une institution dans laquelle on s'oriente les élèves les plus en difficulté scolaire. Je pense néanmoins que le lycée professionnel, il permet aussi, il contribue aussi à une certaine démocratisation scolaire, qui n'est pas forcément une démocratisation comme on l'entend avec les filières générales, dans la mesure où il m'est apparu clairement qu'il incarne un peu ce que j'appellerais la manière dont l'institution scolaire produit de l'échec et en même temps produit les moyens d'y remédier. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'excellentes réussites en lycée professionnel et on a aussi des aspirations qui émergent chez des élèves, qui sont d'ailleurs de plus en plus à vouloir poursuivre des études, et de plus en plus à vouloir poursuivre des études, non pas forcément pour trouver un emploi, on a aussi des élèves qui veulent poursuivre des études pour vivre leur expérience étudiante, comme les autres, et quand je dis comme les autres, c'est les enfants issus de l'immigration qui considèrent que le LP est aussi un moyen d'émancipation sociale, d'émancipation scolaire, et pas forcément professionnelle. Et le dernier point que je dirais, c'est qu'il reste quand même, de mon point de vue, à conduire des recherches et des observations longitudinales pour comprendre les modalités empiriques du travail, comment se construit cette orientation dans les établissements, quels présupposés peut y avoir. Par exemple, et je termine un peu là-dessus, il y a une chose que j'avais vue, il y a des lycées professionnels qui ont véritablement joué la carte, si je puis dire, de l'émancipation en disant: nous, on accueille des élèves dans les formations où il est parfois difficile de trouver un stage parce qu'on veut aussi montrer aux employeurs que nous avons aussi des élèves, quelle que soit leur origine, qui sont capables de travailler en entreprise. Donc, ils jouent un peu le jeu. Et vous avez d'autres lycées professionnels où on dissuade parfois les élèves d'aller dans des formations sous prétexte qu'ils risquent d'être discriminés sur le marché du travail, ce qui veut dire parfois, si on n'y prend pas garde, que l'établissement scolaire peut devenir complice justement de formes de ségrégation. Et ça, évidemment, c'est plus que préoccupant. Voilà, je termine là-dessus. Et puis, de toute façon, j'avais mis Alessandro, nous sommes pour les collègues, on pourra diffuser le diaporama sans problème. Et sur le lycée professionnel, il y a en tout cas un article complémentaire qui peut apporter, préciser un peu plus le LP aujourd'hui en France. Voilà, il y a le premier, en fait.
Très bien, merci.
Alors. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez?
Oui, je vois votre.
Ok. Vois. Qui n'est pas un PowerPoint, qui est un séminaire Urmis.
Oui.
Ok, parfait. Alors, merci pour cette invitation. Je ne sais pas, je ne vais pas conclure, en fait, parce que je trouve que, en fait, les réflexions que j'ai pu entendre aujourd'hui et puis discerner dans ce qui s'est dit précédemment me semblent plus de nature à ouvrir les choses que véritablement à les conclure. Et donc, j'ai juste un petit doute sur ce que je suis en train de partager comme écran. OK. Alors, je veux juste, est-ce que vous voyez une diapositive de titre?
On reste sur le séminaire, en fait.
Oui, parfait. OK, c'est très bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je n'allais pas en fait conclure comme tel, parce que je trouve qu'il y a quand même plus de pistes de prolongation, d'échanges qui se dessinent que véritablement d'éléments à conclure. Et du coup, ça, moi, ça me mène à prolonger un peu un certain nombre de réflexions à partir de ce que je connais un peu, qui est la question, alors aussi, pas tant de l'orientation, parce que Aziz Gelab a magnifiquement dressé le portrait de tout ça, mais plus sous un angle particulier, qui est celui du décrochage scolaire. À l'issue d'un travail que j'ai eu la chance de pouvoir faire dans la région du Latium, autour de Rome, et dans une perspective de travaux comparatifs entre la France, le Québec et l'Italie sur le décrochage, en particulier sur les politiques de décrochage scolaire. J'aurais dû commencer par vous lire ça. Je suis affligé d'une tare académique terrible, qui est celle d'être politiste, et donc je m'intéresse avant tout aux politiques publiques. Et donc, je m'intéresse à comment on structure les systèmes de régulation politique du décrochage scolaire en France, en Italie et au Québec. Et au fond, il y a une dimension qui a été régulièrement évoquée dans ces travaux d'enquête, mais que je n'ai pas exploré, dont je n'ai pas vu de travaux en fait, qui les explorent réellement, qui est celui qu'on peut faire, du lien qu'on peut faire entre la scolarisation des enfants de migrants et le décrochage scolaire. Et on a bien vu tout à l'heure, notamment dans la présentation de Maria Grazia Santagati, c'est une question qui se pose fortement en Italie. Et donc, en guise de conclusion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer quelques éléments de réflexion, mais qui ne sont pas du tout stabilisés, parce qu'il faudrait faire une recherche, pour le coup, vraiment sur cet aspect particulier, mais qui est de regarder un peu ce lien entre décrochage scolaire, dispersion, on dirait en Italie, entre décrochage scolaire et entre scolarisation des enfants migrants, et du point de vue d'une analyse politique. L'intérêt pour moi d'une analyse politique, c'est que ça permet d'évoquer un certain nombre de dimensions. Alors, on a le problème en France d'englober sous le terme politique des choses extrêmement vastes. Et de ce point de vue, l'univers anglo-saxon est un peu plus pertinent, parce qu'il nous permet de distinguer trois niveaux dans ce qu'on appellerait politique en France. Et c'est à partir de ces trois niveaux que je vous propose de faire ce petit tour du côté du décrochage scolaire. C'est en distinguant et en étudiant surtout quelle relation il peut y avoir entre une première dimension du politique, qui est la politique, c'est-à-dire les modèles d'intégration, la communauté politique, les modes de citoyenneté. Un deuxième niveau qui est le niveau des politiques, c'est-à-dire plutôt le niveau de la compétition politique, du débat, de la controverse, des rapports de force, des échanges politiques. Et on voit bien que la question migratoire est une question qui fait l'objet d'une forte politisation, et ça aussi bien en Italie qu'en France. Tout comme nous avons des modèles d'intégration et des trajectoires migratoires différentes. Et puis un troisième niveau qui est celui des politiques publiques, des dispositifs, des instruments d'action publique, des acteurs et des représentations qu'ils portent. Et c'est à partir de ces trois niveaux, en les balayant rapidement, que je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur la question élèves migrants, décrochage scolaire. Alors, si on regarde les choses du point de vue de la politique, du point de vue des modèles d'intégration, on a bien vu dans ce séminaire, je pense notamment à l'intervention de Laura Zanfling, à quel point la France et l'Italie ont des trajectoires et des expériences différenciées en matière de migration, avec, pour les rappeler rapidement, l'expérience coloniale et postcoloniale différente, avec une confrontation inégale, et inégale notamment du fait des réglementations européennes au flux de réfugiés, avec, pour le dire rapidement, en Italie, cette image qu'on a classiquement du passage d'un pays qui passe de l'émigration à l'immigration et qui est aux premières loges des flux de réfugiés. Et puis, en France, on a cette image aussi à la fois du passage d'une immigration de travail jusqu'au début des années 70, et puis après 74, c'est le regroupement familial, la migration devenant une question sociale qui va se traiter notamment sous l'angle des relations interethniques, en tout cas qui va poser la question des relations interethniques et puis une confrontation identique au flux de réfugiés dans la période la plus récente. On a deux modèles d'intégration entre France et Italie qui évidemment sont distincts, avec d'un côté un système très universaliste et non différentialiste en France, et puis, comme l'a rappelé Maria Grazia Santagata tout à l'heure, une expérience ancienne de l'inclusion en Italie, dont on peut faire peut-être l'hypothèse qu'elle elle plonge ses racines dans le champ sanitaire et social et dans la loi Basaglia, qui a, d'une certaine manière, lancé la question de l'inclusion sociale, et qui descend, qui percole jusqu'aux établissements. Je rappelle pour les collègues français que les établissements scolaires italiens, notamment dans le secondaire, doivent publier chaque année un plan annuel d'inclusion dans lequel ils décrivent les activités qu'ils font en matière d'inclusion scolaire et une définition de l'inclusion très large dont peut témoigner par exemple la question des élèves à besoins spécifiques. Je vous ai mis à l'écran une traduction de la nomenclature des élèves à besoins spécifiques en Italie, dont vous voyez qu'elle couvre un spectre extrêmement large, beaucoup plus large que ce qu'en France on pourrait considérer comme des élèves à besoins spécifiques. Ça inclut y compris les désavantages socio-économiques ou les désavantages socio-culturels. Et pour en venir à la question du décrochage, les mots ne sont pas indifférents. Vous le savez, au Québec, on parle de persévérance, mais puisqu'on est dans un séminaire franco-italien, on va mettre en perspective le terme de décrochage scolaire en France et le terme de dispersion scolaire en Italie. Alors, il arrive qu'on parle d'abandon scolaire, mais on parle le plus souvent de dispersione scolastica pour pointer ce phénomène, qui, au fond, par dispersion scolaire, on inclut tout ce qui peut empêcher une scolarisation, j'allais dire, classique, normale. Et donc, ça inclut tous les troubles qui peuvent subvenir dans la scolarité, allant jusqu'à l'abandon scolaire. Mais on ne se limite pas, dans la compréhension qu'on en a, à la seule question du décrochage ou de la rupture scolaire, comme ça peut être le cas en France. Si on regarde maintenant du point de vue de la dimension politique, de la question de la politisation du décrochage scolaire et du lien avec la migration, il y a un moment qui est un moment important, qui est celui où on va mettre la question du décrochage scolaire à l'agenda politique. Et on voit bien qu'on va politiser la question du décrochage scolaire de manière différente en France et en Italie, avec, je dirais, en France, on a un moment un peu clé qui est celui des émeutes de 2005 et de leur interprétation, où à l'issue donc de ce mouvement qui a enflammé les banlieues, il va y avoir une série de travaux qui vont être conduits pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu produire ces émeutes urbaines. Et dans l'analyse qu'on va en faire à ce moment-là, on va avoir un algorithme un peu simple, voire même simpliste, qui va mettre en lien les violences urbaines, l'orientation scolaire et le décrochage. Alors, je vous ai mis à l'écran deux extraits. L'un vient du Conseil d'analyse stratégique, l'autre du Sénat, qui vont faire un espèce de bilan des émeutes de 2005 et qui vont en conclure, pour vous le dire, pour faire rapidement, si les élèves font, si les jeunes se sont révoltés, c'est parce qu'ils n'avaient pas de boulot. S'ils n'avaient pas de boulot, c'est parce que l'école ne les a pas préparés, et notamment parce qu'ils ont été mal orientés. Et donc, pour le dire un peu rapidement, si les élèves et si les jeunes se sont révoltés, c'est la faute un peu aux conseillers d'orientation, en négligeant le fait que parmi tous les bâtiments qui ont pu faire l'objet de déprédation pendant ces émeutes, à aucun moment un CIO, c'est-à-dire l'endroit où travaillent les conseillers d'orientation, n'a été pris à partie par les jeunes. On va avoir aussi dans la lecture qui est faite des émeutes de 2005, qui va véritablement lancer le moment où on va commencer à s'intéresser concrètement en termes de politique publique au décrochage scolaire en France, mais aussi le moment où on va commencer à réformer l'orientation sur lequel on a fait le constat depuis, on va dire, le début des années 90, qu'il y a des dysfonctionnements assez importants. On fait le constat aussi, bien sûr, dans les émeutes de 2005, qu'il y a une dimension qui est liée à la question ethnique ou à la question migratoire. Et de manière intéressante, à ce moment-là, on ne va pas mettre en relation les relations interethniques et la scolarisation, ou la question scolaire, pas véritablement. On va plutôt l'accrocher à des questions liées au logement, aux discriminations, aux embauches, à la vie dans les cités. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que la dimension religieuse, d'une certaine manière, et là je fais référence plutôt à l'intervention d'Alessandro et Catherine Blaya dans ce séminaire, où ils ont bien mis en évidence ce phénomène-là, on ne voit pas cette dimension-là apparaître comme une dimension saillante. En Italie, la mise à l'agenda, elle est tout à fait différente. Et comme vous le voyez dans la première citation, qui est un extrait d'entretien que j'ai eu avec le responsable de la mission ou du service en charge du décrochage scolaire au ministère à Rome, où il fait effectivement le constat qu'il n'y a pas eu de déclencheur comme tel lié à des émeutes comme en France, mais plutôt une prise de conscience liée à la production de données et à la prise de conscience qu'il y a un phénomène de décrochage élevé dans le sud de l'Italie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à véritablement en prendre conscience. Pour autant, dans tous les entretiens que j'ai pu conduire dans la région du Latium il y a de ça 3 ans, la question migratoire est revenue constamment comme un élément explicatif du décrochage scolaire. Donc, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de l'USR, c'est-à-dire l'équivalent du rectorat, que ce soit au niveau du conseil régional en charge de la formation professionnelle, ou que ce soit au niveau des établissements, et on a bien rappelé tout à l'heure à quel point l'autonomie des établissements est un élément structurant en Italie, et de fait, ce sont les établissements qui construisent la politique de lutte contre le décrochage scolaire, bien plus que le ministère ou que les USR. Le ministère et l'USR se contentant de mettre des moyens à disposition, mais sans vraiment structurer une politique nationale de lutte contre le décrochage. Là, on va avoir une imputation à tous les niveaux de l'institution scolaire, une imputation de responsabilité ou de causalité entre décrochage scolaire et émigration. Et vous voyez donc, la première citation, c'était une citation de la dirigeante, on dirait en Italie, ou de l'approviseur du lycée Virgilio à Rome, qui est un lycée de centre-ville très prestigieux, pas très loin du palais Farnèse. Et puis, la deuxième citation est celle d'une dirigeante, là encore, d'un établissement en grande périphérie de Rome, ou assez loin de Rome, à Viterbo, donc à une centaine de kilomètres au nord de Rome, où là, pareil, à chaque fois, et c'est revenu régulièrement dans tous les entretiens que j'ai pu faire avec des responsables, des chefs d'établissement. Pour autant, et là on va peut-être trouver ce que Aziz Gelab tout à l'heure évoquait comme différence ou comme tension entre l'expérience subjective et les données statistiques, si on regarde un petit peu ce lien entre décrochage scolaire et expérience migratoire, on peut se poser quand même des questions. Là, vous avez à l'écran la courbe du nombre, de la proportion d'élèves étrangers dans le système scolaire et la courbe du décrochage. Et vous voyez qu'en fait, ces deux courbes, s'il y avait réellement un lien de cause à effet entre décrochage et présence d'élèves migrants, les courbes se suivraient, alors qu'en fait, elles sont en train de se croiser. Ce qui, moi, m'amènerait plutôt à relativiser le poids de la scolarisation des enfants migrants dans le décrochage. Ou alors, ça serait de considérer que la courbe aurait baissé beaucoup plus fortement s'il n'y avait pas eu les élèves migrants, mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire cette hypothèse. D'autant qu'il y a un deuxième élément qui est troublant dans cette histoire-là, c'est quand on regarde la distribution géographique. Vous avez sur la carte de gauche les taux de décrochage scolaire, qui sont très, comme souvent en Italie, hein, les réalités régionales sont extrêmement fortes, on a des taux de décrochage scolaire qui sont très variables, mais on a clairement des taux qui sont beaucoup plus élevés dans les provinces, dans les régions méridionales, la Campanie, la Calabre, la Pouille, les îles, et un peu moins, comme d'habitude, il y a toujours un statut un peu particulier de la Basilicate, qui est vraiment une région particulière en Italie. Et si on compare cette carte de gauche, donc sur les taux de décrochage, et celle de droite qui va nous mettre en image la présence d'élèves migrants, à partir des données du ministère, on se rend compte qu'en fait, les élèves migrants se concentrent plutôt dans le nord, quand le décrochage scolaire se concentre plutôt dans le sud. Et du coup, ça pose là encore question sur ce lien entre décrochage scolaire et présence d'élèves étrangers dans les écoles. Et puis, pour poursuivre ce que nous présentait tout à l'heure Maria Gracia Santagati, on voit aussi à travers la question du retard de scolarité, qui montre a priori une scolarisation plus difficile pour les étudiants, pour les élèves étrangers. Mais effectivement, je pense qu'il faut relativiser ça à partir de deux éléments. Le premier, c'est que, et ça a été rappelé plusieurs fois, les élèves étrangers optent plus souvent que les élèves italiens pour des formations professionnelles et techniques, et qu'on sait que c'est dans ces formations que se concentrent les taux de redoublement. Et puis, d'autre part, il n'est pas dit que le retard de scolarité nous constitue un prédicteur de l'abandon scolaire, et même si on en croit certains chantres du redoublement, ça serait plutôt l'inverse. Donc, il n'est pas dit que ça soit un élément probant sur la relation entre élèves migrants et décrochage scolaire. Il n'empêche que, en tout cas, en termes de situation par rapport au marché du travail, on voit bien que les taux de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, le sont au désavantage des enfants migrants, et que là, on a véritablement un souci d'intégration sur le marché du travail qui est assez fort. Et puis, dernier point, pour sortir donc là de la question de l'agenda et de la question du lien entre migration et décrochage, plutôt en termes de politique publique, pour le dire très rapidement et sans rentrer dans le détail des instruments et des acteurs de l'action publique en matière de lutte contre le décrochage, on peut dire que comme problème public en Italie, on va avoir un lien entre migration et décrochage qui va se construire plutôt à partir de la dimension linguistique, où ce qu'on va mettre en évidence sont les difficultés d'apprentissage qui sont liées aux difficultés à maîtriser la langue, dans les entretiens que j'ai pu construire. En France, on voit bien que la question religieuse est en train de devenir une question assez forte et assez structurante sur l'agenda politique, comme en témoigne la loi en cours de discussion, dont j'ai plus le titre précisément en tête, mais c'est la loi…
séparatisme.
Voilà, relative au séparatisme, etc., qui va traiter la question de la scolarisation à partir de deux entrées, qui est l'enseignement à domicile et l'enseignement privé. Où là, alors évidemment, la loi est en cours de discussion, donc on ne peut pas en tirer de conséquences pour l'instant en termes d'action publique immédiate, mais clairement, les questions se posent à partir de l'entrée religieuse. Ce qu'on a de commun en Italie comme en France, c'est qu'on va cibler plutôt des territoires et que des populations, parce que, en France en tout cas, parce qu'il y a ce principe de non-discrimination qui est inscrit dans la Constitution et qu'on a depuis les années 80 constamment pensé les politiques publiques en les ciblant sur des territoires plutôt que sur des groupes de personnes. Et ce qui va donc de pair avec ça, c'est qu'en matière de lutte contre le décrochage scolaire, on va avoir plutôt la mise en œuvre de dispositifs de droit commun, et qui vont être pensés plutôt en termes de remédiation aux difficultés scolaires en France concernant la scolarisation des migrants, alors qu'en Italie, on va être effectivement dans des dispositifs qui sont plutôt pensés en termes d'inclusion scolaire. Et puis, ce que les deux systèmes ont peut-être en commun aussi d'intéressant, c'est le facteur explicatif qui a été rappelé à plusieurs reprises dans ce séminaire, à la fois par Virginie Babicolin et par Aziz Gelab aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on oriente quand même majoritairement les élèves migrants vers des filières de second ordre, des filières où se concentrent les phénomènes de décrochage scolaire, et c'est peut-être comme ça que se construit en fait le plus fortement le lien entre décrochage scolaire et scolarisation d'enfants migrants, avec de fait une problématique forte, et ça, Aziz Gelab vient de le rappeler très, très précisément, un lien très fort avec les problématiques d'orientation, mais aussi avec ce que Virginie Babie-Collin pouvait appeler dans sa présentation une forme de discrimination systémique ou institutionnelle qui passe, j'allais dire, à bas bruit, d'une certaine manière, par l'orientation des jeunes issus de l'immigration et notamment des nouveaux arrivants vers des filières professionnalisantes. Voilà, ça ne conclut rien. Ça pose plus de questions que ça n'en résout, mais je vous remercie de votre attention. Et Alessandro, je laisse la parole.
Très bien. Merci Thierry pour effectivement cette conclusion propositive. Élève dit immigré et italien. Est-ce que, disons, le statut socio-économique de la famille a son mot à dire? Et oui, bon, bien sûr, quelles sont les différences entre première et deuxième génération? Mais oui, ça fait déjà partie de la première question. Micro.
Non so se ho capito bene cosa mi hai chiesto, ovviamente.
Allora, no, ti chiede effettivamente se nelle differenze di riuscita fra italiani e stranieri e tra stranieri di prima e di seconda generazione, qual è il ruolo dell'origine sociale, cioè dello status socio-economico della famiglia?
Allora, le ricerche che sono state fatte finora...
Emilie n'est plus là, e donc c'est à moi de... oui, je vois bien les questions, je vais les noter dans la chat, merci pour les autres. D'accord. Oui, ma ragazza, tu peux riprendre lentement ta réponse.
Sì, cioè la, come dire, gli studi che sono stati fatti sulla riuscita scolastica di fatto mettono in luce chiaramente il peso molto forte dell'origine socio-economica, come dicevo prima. Però studi più recenti, mi ha colpito molto la riflessione di Aziz, perché ho visto che come dire, ci sono anche molte convergenze con gli studi italiani. Studi più recenti, per esempio, sull'orientamento scolastico e sulla scelta della scuola superiore, mettono in luce che a parità di status socio-economico, a parità quindi di una serie di condizioni, di fatto tra la prima, sia nella prima, più nella prima, ma anche nella seconda generazione, l'essere di famiglia immigrata, quindi lo status migratorio, incide sulle scelte scolastiche.
Ok, allora, d'après Maria Grazia, oui, effectivement, selon les premières études menées à la matière, donc, le statut socio-économique a un poids qui est relativement important. Ceci dit, si on se tourne vers les études les plus récentes qui se focalisent notamment sur la transition entre le secondaire et le supérieur, voilà, on trouve qu'il n'y a pas seulement un effet propre à l'origine sociale, mais apparemment un effet propre au statut migratoire. Ce qui pourrait suggérer une forme vraiment de discrimination en fonction de l'origine migratoire, ethno-raciale, etc., etc.
Cioè, allora, ho messo il link, purtroppo lo studio è in italiano per ora, però il secondo capitolo di questo rapporto nazionale presenta proprio queste analisi sulle scelte e sull'orientamento scolastico.
D'accord, très bien. Et nous envoyer le lien pour accéder à un rapport édité par la Fondation ISMU de Milan, qui se focalise justement sur les choix et l'orientation en Italie.
Quello che emerge con evidenza negli studi italiani è che questa discriminazione, no? Che si può leggere a livello statistico in questi dati, delle scelte a ribasso, vale soprattutto per gli allievi più bravi. Non so se...
Donc, il semblerait, d'après les toutes dernières études, les plus récentes, que cette sorte de discrimination selon l'origine, selon le statut migratoire, disons l'origine migratoire, semblerait pénaliser davantage les élèves qui ont les réussites les meilleures, en termes de moyenne.
E questo sarebbe anche, dire, interpretabile, no? Col fatto che, dire, sulle fasce, no, di status socio-economico più basso, gli svantaggi pesano allo stesso modo, in termini di percorso scolastico. Lo diceva anche Thierry prima. Noi abbiamo dei tassi di dispersione degli italiani fortissimi al sud, e che derivano da, no, risultati anche scolastici bassi e concentrazione in filiere professionali e tecniche di questi giovani.
Oui, bon, ça rajoute pas grand-chose, mais finalement, selon justement ces études, donc si on se focalise sur la population d'élèves issus des milieux les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique, bon, le poids du statut social, là, c'est uniforme. Par contre, il n'est pas alors très surprenant que le poids du statut social se démarque lorsqu'on se focalise sur les élèves, disons, issus des milieux les plus élevés. Mais j'ai t'avu que là, je risque d'avoir fait confusion un peu de ce que tu as dit. Peut-être que tu peux le reprendre parce que, Maria Grazia, oh, Thierry, tu as saisi mieux que moi.
Cioè, cos'era che non si comprende?
No, parce qu'à un moment donné, il semblerait que tu as dit que parmi les fra gli allievi di statuto socio-economico basso,
okay,
il peso dell'origine sociale è uniforme.
Sì, in qualche modo ci sono meno distanze tra nativi e stranieri, no? Tra
ecco,
stranieri, mentre, no, nei profili più alti, come dire, ci sono
scelte
al ribasso, no? Quindi vanno al professionale o al tecnico, anche se potrebbero andare al liceo generale.
Okay, pardon, j'ai compris. On parlait toujours de la comparaison élève immigré, élève italien, c'est-à-dire si on prend comme population de référence la population des défavorisés au sens socio-économique du terme, donc le poids du statut socio-économique est important à la fois pour les élèves italiennes et les élèves dits immigrés. Alors que plus on monte dans la hiérarchie sociale, le poids du statut socio-économique est plus important pour les élèves immigrés par rapport aux élèves italiens. Voilà. C'était la dimension comparative que je n'avais pas saisie.
Se posso aggiungere questo aspetto, invece della discriminazione sui gruppi e sugli allievi anche, come dire, con risultati migliori, penso che l'approccio anche che ha presentato Aziz sia molto importante, dell'intreccio, e quello su cui anche stiamo lavorando noi, l'intreccio di analisi quantitative e analisi anche qualitative, che vanno a studiare, come dire, i processi, i microprocessi attraverso cui gli insegnanti interagiscono con gli studenti e con i genitori, e che portano a questa, no, discriminazione che poi si osserva nelle scelte.
Oui, elle voulait tout simplement rebondir sur, disons, les suggestions d'Aziz Vella et Aziz Gelab, de la nécessité de mobiliser des approches mixtes, voilà, c'est-à-dire de coupler les analyses de régression avec des analyses moyennes d'entretien pour saisir les processus, les dynamiques, les pratiques, etc. Bon. Et si vous me le permettez, après je vois qu'il y a une question de Virginie, Bébé Collin et Thierry Berthet, mais si vous me permettez, tant que j'épuise le bagage des questions de Jean-Luc Primont, alors je suis d'accord avec l'analyse menée par Aziz Belgelab, mais est-ce qu'il peut nous dire un peu plus sur la place contradictoire, entre parenthèses et avec un point d'interrogation, du lycée professionnel dans la démocratisation?
Oui, alors en fait, peut-être pour donner une image, on peut dire jusqu'au milieu des années 70, début des années 80, l'orientation des élèves vers la voie professionnelle, vers le lycée professionnel, était vécue de façon assez positive. Parce que ils étaient assurés d'avoir un emploi quand ils sortaient, même s'il y a eu la crise du milieu des années 70, mais quand même. Et ils y allaient avec un projet familial derrière, c'est-à-dire qu'on allait au lycée professionnel parce qu'on était fils ou fille d'ouvrier. Si on compare avec aujourd'hui, même si le tableau n'est pas aussi sombre que cela, à partir de cette date-là, on peut dire les années 90-2000, on va au lycée professionnel parce qu'on est en échec au collège. Donc, en fait, ce n'est plus exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est la difficulté scolaire qui conduit justement cette orientation vers le lycée professionnel. Or, le paradoxe, c'est que c'est pour ça que c'est assez contradictoire, c'est qu'à la fois, la transition vers le lycée professionnel, elle est plutôt subie par une bonne partie des élèves, et en même temps, c'est dans le lycée professionnel que, en fonction des pratiques pédagogiques, que des élèves prennent confiance en eux et commencent à se mobiliser et commencent à y avoir des projets. C'est-à-dire, moi, au départ, quand j'ai enquêté sur le lycée professionnel, je suis parti d'une question très, très simple, c'était quel sens les élèves donnent au fait d'apprendre au lycée professionnel quand la plupart d'entre eux disent « je n'ai pas choisi mon métier, je n'ai pas choisi cette orientation, je suis trop jeune, j'aurais voulu poursuivre dans la voie générale ». Et en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure que c'est une fois qu'ils sont au lycée professionnel qu'ils commencent à construire des projets. Parce qu'ils découvrent des activités, parce qu'ils découvrent un monde relationnel différent, parce qu'ils commencent à exister autrement vis-à-vis de leurs parents. Et les parents d'élèves issus de l'immigration voient dans le lycée professionnel pas forcément cette image négative au sens où ils découvrent des choses positives. Et donc, il y a quelque chose de contradictoire entre, d'un côté, une image pas très positive dans la hiérarchie des classements scolaires, et vous avez statistiquement, je ne l'ai pas dit, mais vous avez peu d'enfants d'enseignants, par exemple, au lycée professionnel. Voilà, clairement. Hein. Bon, mais donc, le discours institutionnel parle d'une valorisation, alors qu'en fait, c'est plutôt une voie qui n'est pas choisie majoritairement, même s'il y a des spécialités. Mais de l'autre côté, il y a eu la réforme de la voie professionnelle qui a transformé, qui permet aux élèves de faire un bac pro en 3 ans, alors qu'avant, il fallait le faire en 4 ans. Les élèves arrivent en lycée professionnel plus jeunes qu'avant, il y a moins de redoublement. Et donc, dès l'entrée en lycée professionnel, ils ont pour projet de poursuivre des études dans le supérieur. Et donc, le paradoxe, et je terminerai un peu là-dessus, c'est que en fait, le lycée professionnel, il donne à voir à la fois le fait qu'il prépare à l'emploi, mais en même temps, il prépare à la poursuite des études. Et j'ai pu en parler récemment, et ça, c'est un texte qui était paru dans la revue Formation Emploi il y a 4-5 ans, ce que j'avais intitulé « Est-ce que poursuivre des études ou rentrer dans la vie active ?» C'est parce qu'en France, la poursuite d'études, c'est ce qui donne le plus souvent une dignité, en fait. C'est-à-dire que plus vous êtes capable de poursuivre des études, plus vous êtes digne et reconnu socialement. Donc, les élèves poursuivent des études, pas forcément pour avoir un emploi, mais pour avoir des diplômes. On a quelque chose de très paradoxal par rapport à une idéologie adéquationniste qui n'arrête pas de dire « il faut former pour l'emploi ». Eh bien, les élèves, et dont les élèves aussi issus de l'immigration, ils trouvent que la voie professionnelle, ça leur ouvre aussi des perspectives et ce n'est pas inintéressant. C'est pour ça que c'est très contradictoire comme position, en fait. Ils contribuent à la démocratisation scolaire, mais pas autant que la voie générale, par exemple. Donc, tout n'est pas négatif, mais il y a quand même quelques points de tension, par exemple, si on prend la poursuite d'études aujourd'hui, elle se sonne souvent par de l'échec ou des difficultés quand ils entament des études à l'université après le lycée professionnel. Le tableau est plus positif quand ils font des études en BTS. Ce qui me permet, entre parenthèses, de dire ce que j'avais dit à Stéphane Beau y compris d'ailleurs, ça me fait remonter à quelques années, Stéphane Beau, qui était dans le membre jury de mon habilitation à diriger des recherches, il m'avait dit, mais vous présentez le lycée professionnel de façon toujours un peu mitigée. Oui, parce que tout n'est pas négatif, mais tout n'est pas positif. Hein, et quand Stéphane Beau avait enquêté sur les enfants de la démocratisation, il interroge 4 élèves de bac pro qui sont inscrits à la fac. Et moi, je lui ai dit, oui, mais il faut interroger aussi les élèves de BTS qui, eux, réussissent. Donc, on a un modèle qui n'est pas totalement négatif. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas le temps de le développer ici. Je trouve que les tests de la reproduction ne sont pas totalement satisfaisants.
Très bien, Aziz, pour cette réponse très exhaustive. Alors, Thierry Berthet, Virginie Bébite-Collin, je ne sais pas dans quel ordre vous êtes manifesté.
Je crois que c'était moi en premier.
Voilà.
Bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai raté une partie du séminaire, mais j'ai pas entendu malheureusement, Aziz, ta communication. Je regrette beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Enfin, je trouve ça très très intéressant la façon dont tu présentes avec beaucoup de nuances le lycée professionnel. C'est passionnant. Et j'ai une petite question du coup par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on a des données sur les pourcentages d'élèves donc de bac pro qui poursuivent leurs études supérieures et combien à l'université ou en BTS et les pourcentages de réussite voilà, c'est une petite question aussi, s'il y a des textes là-dessus pour trouver les informations. Et j'avais une question pour Thierry, hein, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. J'adore la mobilisation de la géographie pour pouvoir discuter le lien entre décrochage scolaire et migration. Après, il faudrait regarder encore plus dans le détail, ce serait intéressant d'aller à d'autres échelles, mais bon, c'est super, je suis géographe, hein, c'est pour ça que je dis ça, je rigole. Et ma question, c'était un petit peu sur la comparaison que tu as fait à la fin entre France et Italie, où tu nous as dit, il me semble que en Italie, on était plutôt en train de penser des politiques de lutte contre le décrochage scolaire en termes d'inclusion scolaire, alors qu'en France, on était plutôt sur des politiques de remédiation aux difficultés. Et je voulais te poser la question de la place de l'essor quand même très, très important du discours, mais pas que du discours, c'est quand même, ça s'accompagne quand même de certains éléments sur l'école inclusive en France, qui a pris énormément d'ampleur et qui prend de plus en plus d'ampleur, puisque c'est en train même d'être un des piliers de la réforme là, des master MEF qu'on est en train d'essayer de construire. Et du coup, est-ce qu'il y a des évolutions en fait en France par rapport à ça? Voilà, moi j'ai l'impression que l'inclusion revient énormément, et c'est d'ailleurs ce qui structure complètement toute la politique d'accueil des élèves allophones, enfin en tout cas sur le papier, hein, parce que dans la réalité on sait bien que les élèves allophones, bon, quand ils sont en collège, l'inclusion elle peut se construire, s'ils ne sont pas non scolarisés antérieurement, on peut scolariser antérieurement, mais on sait que dans des dispositifs qui sont en lycée professionnel, justement, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et finalement, c'est peut-être après, quand les jeunes peuvent intégrer des CAP ou des formations de LP, que peut se produire cette inclusion une fois qu'ils sont sortis de la catégorie des élèves allophones nouvellement arrivés dans lesquels ils sont cantonnés au début. Voilà, j'aimerais bien un peu plus de développement là-dessus, Thierry, si tu peux. Merci beaucoup.
Je commence à peut-être répondre à ta question, Virginie. Alors, en fait, je n'ai pas de… Je veux dire un peu de tête comme ça, mais il faudra voir les statistiques, parce qu'on a des statistiques de l'ADEP sur le taux de réussite des bacheliers professionnels dans le supérieur. On a quelques statistiques, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une recherche, tu vois, précisément. Ce que je peux dire, ce sont plutôt des tendances, c'est-à-dire que quand on prend les bacheliers professionnels dans le supérieur, clairement, la réussite est plus du côté des BTS, STS, que du côté des universités. De mémoire, je dirais que sur. On a, en BTS, on a à peu près 36%, 37% des bacheliers professionnels qui y rentrent.
Pardon, juste une petite précision pour notre collègue milanaise. Les BTS, ce sont des diplômes post-baccalauréat, post-maturità, de la durée de 2 ans.
Professionnali, non? Come se fossero.
Oui, oui, oui. Pardon, Aziz.
Oui, oui, tu as raison, merci, hein. Pas de problème. Donc, il y a, avec des variations, par exemple, il y a un rapport qui avait été fait par l'inspection générale, il me semble, ça devait être en 2012-2013, qui montrait qu'il y avait aussi un effet composition des classes de BTS sur la réussite des étudiants. C'est-à-dire que quand tu avais plus de bacheliers professionnels en BTS, ça avait un effet plutôt positif, contrairement à une idée qu'on pourrait avoir. Alors que si tu avais plus de bacheliers généraux et technologiques et peu de bacheliers professionnels, ils en faisaient un peu les frais, ce qui pose aussi la question de la pédagogie et des adaptations. Alors, à l'université, clairement, les taux de réussite varient entre 3 et 4% hein, en L1, avec des variations. Tu vois, alors ça serait intéressant d'aller voir ça de près. Nous, on l'a vu un peu de façon qualitative dans quelques sites universitaires, c'est-à-dire que tu as un effet structure ou effet site sur la réussite des étudiants. Hein. La plupart du temps, ils ont plus de chances, si je puis dire, de réussir quand il y a une vive conscience par l'université du fait qu'elle accueille des bacheliers professionnels. Par exemple, tu prends une filière comme psychologie, qui est une filière de masse, le taux de réussite va être très, très bas, parce qu'ils ont du monde. Mais tu prends une filière comme administration économique et sociale, tu vas avoir un peu de meilleure réussite, parce que s'ils recrutent aussi plus d'étudiants venant de milieux modestes, et si en plus c'est dans une petite université, il y a besoin de capter ces étudiants, eh bien tu vas avoir aussi une attention plus importante à ce public. Hein, voilà. Donc, voilà, en termes de tendance. Alors, je profite puisque j'ai la parole. Donc, en fait, il y a quelques années, quand j'avais enquêté sur les étudiants dans le supérieur, c'est une des manières, et notamment les étudiants de BTS, ce qui pose problème la plupart du temps, ce sont les rythmes de travail scolaire. Hein. Mais j'avais rencontré, par rapport au sujet qui nous intéresse ici, des élèves qui sont issus de l'immigration et pour lesquels réussir dans l'enseignement supérieur était vécu comme une ascension sociale par rapport à leurs parents, plus que quand on compare des enfants issus, on va dire entre guillemets, je ne sais pas le terme, mais d'origine française dont les parents sont ouvriers, ils ne vivent pas forcément l'entrée en BTS comme une ascension sociale, pas au même niveau. Alors, c'était quelque chose que j'avais vu de façon, on va dire, assez intuitive. En tout cas, c'est sur un petit, c'est même pas un échantillon, quelques personnes. Je pense que ce serait intéressant. Voilà, ça donne peut-être des pistes à étudier pour essayer de comprendre un peu cette mobilité intergénérationnelle, si je puis dire.
Alors, merci Aziz, Thierry, et après Valérie Erlich.
Oui, alors merci pour cette question, Virginie. Juste, je te signale qu'il y a, de mémoire, il y a un papier, en tout cas, il y a une étude qui a été faite par Éric Verdier au Lest et Catel Cornick sur les échecs de poursuite post-bac pro pour le CNESCO. Donc, j'imagine que tu dois pouvoir avoir quelques données dans cette étude. Alors, pour en venir à ta question remédiation versus inclusion, qu'est-ce qui se passe en France avec tout le discours sur l'école inclusive? Je dirais il faut faire un peu pour répondre à ça, il faut refaire un peu la trajectoire de la lutte contre le décrochage scolaire en France. C'est pas pour rien si je l'ai fait remonter à 2005, c'est que dans un premier temps, on va avoir une conception très sécuritaire en fait du décrochage scolaire. Qui se traduisait par le fait que le système de dénombrage, par exemple, des décrocheurs scolaires, le fameux SIEI, système interministériel d'échange d'informations, avait été confié au préfet, plutôt qu'au recteur, qu'on a à cette époque-là des rapports sur le décrochage scolaire qui sont faits par la mission de prévention de la délinquance en France. Enfin, voilà, on a une entrée très sécuritaire qui va changer avec toute la période refondation de l'école où là, on va rentrer sur une lecture plus scolaire de la question du décrochage, mais on va quand même beaucoup travailler sur la remédiation dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a, au fond, jusqu'à, je dirais, Probablement le tournant, c'est le mandat de Najat Vallaud-Belkacem et le travail qu'elle a fait avec Frédéric Wechsler qui fait basculer, où on va commencer à s'intéresser davantage à la question de la prévention et à la question de l'intervention en milieu scolaire. Et donc, c'est du coup, c'est très récent. Et je dirais qu'on est sur une marche intermédiaire pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, ces processus-là sont très longs, sachant que depuis 2017, on a un peu réparti les choses, où on a donné aux régions françaises tout ce qui relevait de la remédiation en lien avec leurs compétences sur l'orientation, notamment avec la mise en place d'un SPRO. Et puis, on a gardé tout ce qui est intervention, prévention au sein du système scolaire. Mais là encore, on est 3 ans après ou 4 ans après, donc c'est des choses extrêmement longues. Tout à l'heure, en parlant de l'Italie, j'évoquais la loi Basale et l'entrée, la comparaison avec la question des personnes en situation de handicap. Si on regarde en France, l'inclusion des élèves en situation de handicap, c'est la loi de 2005, et on voit bien à quel point c'est une mise en œuvre qui est extrêmement longue, qui est extrêmement problématique, où il y a des questions de moyens qui vont derrière. Donc il y a aussi, du coup, quels sont les moyens qu'on met sur le décrochage scolaire, quels sont les moyens qu'on met sur la prévention et sur l'intervention au milieu scolaire. Il faut aller traîner un peu dans les missions de lutte contre le décrochage scolaire dans les établissements pour voir à quel point, on a envie de pleurer, honnêtement, quand on voit les moyens qui sont mis à disposition des missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et puis d'un autre côté, ça veut dire qu'on bascule toute une partie de la responsabilité sur les enseignants. Et se pose alors, du coup, en fait, la réponse, elle était dans ta question, Virginie. Parce que, la réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière de formation des enseignants sur la détection des risques de décrochage scolaire, sur l'accompagnement des élèves en difficulté ou en risque de rupture scolaire. Et du coup, j'imagine que le projet empirique que tu animes au sein d'Aix-Marseille Université, qui va repenser l'accès aux savoirs fondamentaux, il y a là des pistes, effectivement, pour travailler sur le décrochage scolaire. Et du coup, j'en profite peut-être pour poser une question, puisque je parle du rôle des enseignants. J'avais levé la main pour poser une question, c'était une question à Aziz Gelab. En matière d'orientation, on voit bien que là aussi, sans refaire l'histoire, il y a eu un acharnement de la centrale, du ministère de l'Éducation nationale pour démanteler le réseau de l'orientation scolaire, qui aboutit au fait qu'aujourd'hui, concrètement, ce sont les enseignants qui ont la charge de l'orientation, du conseil en orientation. La décision, ça, de toute manière, ils l'ont toujours eu dans les conseils de classe, mais au moins la préparation du conseil en orientation. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que ce transfert vers les enseignants va changer quelque chose ou peut changer quelque chose en termes d'amélioration ou pas de l'orientation des élèves immigrants
D'accord. Alors, écoute, en fait, tu l'as bien dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai vu sur une des diapositives comment le discours qui a été un peu très critique vis-à-vis des conseillers d'orientation n'a pas donné lieu à ce que les jeunes s'attaquent à des CIO. Ce qui en dit long, parce que historiquement, c'est un corps qui a toujours fait un peu débat et il nourrit tous les fantasmes d'une certaine manière sur le dysfonctionnement de l'orientation. Trouver les acteurs. Et depuis, en fait, le fait de confier aux enseignants la mission de préparer les élèves à l'orientation, c'est quand même relativement ancien, parce que quand on voit les textes, il y a eu déjà des textes dans les années 90 pour mettre en place une éducation à l'orientation, disons, c'est aux enseignants, le conseil d'orientation n'est là que comme expert. Le problème, comme tu le sais, on a mis en place 2 professeurs principaux en terminale, c'est que les enseignants, quand tu les interroges, bien sûr, ils le font globalement comme ils peuvent, hein, et quand ils les interrogent, ils disent nous, on n'est pas spécialistes parce que des questions de l'emploi, de connaissances des filières de formation, on sait parler de ce qu'on sait faire. Mais du coup, ça pose la question de savoir comment, en formation initiale et en formation continue, le ministère va les accompagner dans cette formation. Et il n'est pas anodin de voir que beaucoup de professeurs se disent « Oui, mais nous, on est à la fois jugés partis. » Donc, la question de la personnalisation, parce que l'orientation, c'est une question qui ne concerne, c'est pas seulement scolaire, c'est un projet de vie, et comme tu le sais, dans notre système éducatif, on a tendance à penser l'orientation à travers les résultats scolaires. Qu'est-ce qu'on fait des compétences dites psychosociales, des compétences relationnelles qui se passent complètement à la trappe? Et là, ça pose vraiment la question de savoir quelles connaissances les enseignants ont de leur public, qui ne soient pas que des connaissances effectivement scolaires, dont les élèves issus de l'immigration, pour les accompagner, en sachant que, et tu l'as dit, hein, tu as travaillé là-dessus aussi, sur la question de la territorialisation des politiques de formation, que le fait de confier aux régions en partie aussi la mission d'information et d'accompagnement des élèves, pose aussi quelques problèmes, parce qu'on pourrait avoir ressurgir le modèle adéquationniste, hein, qui revient toujours, et la question de tenir conseil à des élèves en ayant une approche aussi qui soit attentive à leur projet, et on sait, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes ne sont pas que dans une approche adéquationniste, là, c'est vraiment un chantier qui est ouvert. Et je crains que si vraiment on voulait faire l'orientation de façon, on va dire, à mobiliser un peu plus les enseignants, il faut les former aussi à l'évolution, et c'est très compliqué, hein. Mais on sait aussi que les enseignants ne s'intéressent à des questions d'orientation que si ça leur parle du point de vue de l'enseignement disciplinaire. Dans le second degré, si j'enseigne des mathématiques, je vais parler à mes élèves en disant, bah, allez, on m'a dessus pour maths spé ou des choses comme ça. Si je ne vois pas de lien avec ma discipline, voilà, c'est… tu peux dire la même chose sur la laïcité, on peut dire la même chose sur la citoyenneté, etc. Tu vois. Mais voilà, c'est quand même un vrai sujet. Et pour terminer, je crois qu'il y a déjà quelques années, on était quelques-uns à l'avoir dit, et il y a une enquête qui a été menée par Agnès Van Zanten, qui est parue dans l'année sociologique, dernière livraison de l'année sociologique, qui montre que dans les lycées favorisés, les profs font réellement de l'éducation à l'orientation. Et dans les lycées à recrutement populaire, ils n'ont qu'une préoccupation, c'est que les élèves obtiennent le bac. Donc du coup, ils ne développent pas avec eux un travail de recherche et d'éducation à l'orientation, ce qui quand même serait un comble, parce que ça veut dire que plus vous êtes favorisé, plus vous avez un accompagnement institutionnel. Donc, ça serait intéressant d'aller voir un peu dans les établissements comment ça marche.
Merci Aziz. Valérie Erlich, qui d'ailleurs a partagé avec nous des statistiques assez fraîches, je pense. Ouais.
Je viens de regarder en même temps, je ne les avais pas en tête. Bonjour, je suis contente de voir un peu tout le monde, des personnes que je lis souvent et que je ne rencontre jamais, notamment Aziz aussi sur des publications sur l'enseignement supérieur notamment. Donc oui, effectivement, apparemment, il continue son 6 sur 10 à poursuivre leurs études dans le supérieur, et la moitié d'entre eux en BTS. Et du coup, ça m'a fait penser à un vieil article qui date d'il y a 20 ans, que j'ai écrit avec Thierry Bloss, il y a bien longtemps, et où on avait parlé, en fait, surtout des bacheliers technologiques et professionnels, et on les avait assimilés à des nouveaux acteurs de la sélection universitaire. Et je me posais la question, est-ce qu'ils sont encore bien, ces nouveaux acteurs de la sélection universitaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas y ajouter, d'ailleurs, des bacs avec des profils issus d'origines migratoires différentes, parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas justement sur ces profils, on ne travaillait vraiment que sur les PCS, en fait, avec la comparaison cadre-ouvrier, par exemple. Et du coup, je me disais comme ça que ce serait intéressant de refaire un article 20 ans après, en gros, et voir ce que sont devenus ces bacs bac techno à l'université. Il y a 20 ans, on disait qu'en gros, c'était une nouvelle population, ils allaient un petit peu moins en BTS et ils s'orientaient plus massivement qu'avant en université. Et maintenant, je ne sais pas, parce que je n'ai pas réactualisé du tout les données. Et je me disais, ce serait bien de revoir s'ils sont toujours sélectionnés. Est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant des profils migratoires qui se sélectionnent à travers ces bac pro ou bac techno à l'université? Je laisse ouvert la question parce que je ne l'ai pas vérifié, mais je me disais que ce serait peut-être le moment de le revérifier 20 ans après, quoi, en fait. C'était juste une ouverture.
D'accord. Je ne sais pas si… j'ai pas de réaction. D'abord, très heureux de te voir parce qu'on a eu l'occasion aussi d'échanger. J'avais d'ailleurs sollicité l'année dernière pour une enquête sur l'enseignement supérieur. En fait, ça se recompose dans le supérieur actuellement, et c'est vrai que réactualiser, ça serait pas mal. Ce que je vois simplement, mais c'est au gré de quelques missions à l'inspection générale ou quelques rencontres, ou même parfois avec quelques étudiants, puisque j'interviens toujours auprès des étudiants, c'est que y a une recomposition qui pourrait être aussi, qui pourrait aussi évoluer avec la loi actuelle. C'est-à-dire que je me pose par exemple la question, je ne sais pas si tu as travaillé là-dessus récemment, la question est-ce que la transformation des IUT en bachelor, est-ce que ça ne risque pas aussi de reconfigurer? Parce que j'ai connu des étudiants qui passaient par le DUT avant de venir en licence 3. Qu'en sera-t-il aujourd'hui, tu vois, donc voilà, c'est des questions effectivement qui mériteraient une enquête de terrain.
Le bachelor, oui, j'ai vu ça, mais je n'ai pas travaillé dessus, mais effectivement, je pense que dans 4-5 ans, on va avoir des effets. L'IUT va prendre une autre, je pense, hein, une autre position dans l'enseignement supérieur, hein, de fait, ça c'est sûr. Je pense, mais je n'ai pas travaillé dessus. Puis après, puisque j'avais la parole, je me suis reposé cette question que je me suis posée il y a longtemps maintenant aussi avec Jean-Pierre Zirotti qui travaillait sur ces questions, où on n'était pas toujours d'accord sur certains points, sur la spécificité en fait de la catégorie des enfants issus de l'immigration dans les enquêtes. Et des fois, quand on discutait, je me souviens que j'avais cette vision de se dire, est-ce que lorsqu'on travaille à partir d'enquêtes quantitatives, comme Valécaille par exemple, on n'a pas tendance à montrer plus une assimilation scolaire des enfants issus de l'immigration. Et quand on travaille sur des matériaux qualitatifs, où on approfondit les observations, etc., est-ce qu'on n'a pas tendance finalement à montrer l'inverse, c'est-à-dire que du coup, dans les expériences vécues des étudiants issus de l'immigration, on relève beaucoup plus de spécificités de leur catégorie. Donc, d'une part, toute chose égale par ailleurs, on va montrer qu'il y a une assimilation. Et Roger Stablé, qui m'avait fait un cours à l'époque, m'avait fait ce constat. On discutait, c'était l'époque où était sorti l'article de Valécaille. Et on avait cette sensation que finalement, est-ce que ce n'est pas la méthodologie qui nous oriente sur finalement les conclusions qu'on peut avoir à un moment donné où on va montrer qu'il y a assimilation, pas assimilation, spécificité, selon le regard qu'on porte sur ces populations, en fait. Mais pareil,
oui, hein, c'est... Oui, oui. Je ne sais pas, peut-être Thierry ou Maria Garazia ou... Il y a une réaction. C'est très passionnant parce que je me dis, en t'écoutant, je me dis, bon, par exemple, quand tu lis la France des Bellumis de Stéphane Beau, tu peux te dire, on pourrait très bien faire la même chose avec une famille autre, mais à ce moment-là, tu, au lieu d'introduire l'histoire migratoire, tu vas introduire peut-être l'histoire intergénérationnelle. Mais c'est sûr que ça pèse aussi sur l'interprétation qu'on donne des faits.
Noi stiamo studiando, mi spiace perché la lingua è un ostacolo, no? Nel discutere. Però stiamo provando a studiare la discrezionalità dell'insegnante, no? L'agire discrezionale dell'insegnante, che è microfono, Ale.
Micro,
Alessandro, micro.
Alessandro, non ti écoute pas, en fait. Non, je vais essayer le micro.
Pardon. Non, pardon. Étant donné que c'était un peu épais ce qu'elle était en train de dire, je préférais le traduire tout de suite. Donc, ils sont en train de traduire, de mener une étude sur la marge des manœuvres dont les enseignants disposent dans les procédures d'orientation, j'estime.
Sì, soprattutto, però non solo. C'è una letteratura che non è di tanto di sociologia dell'educazione. Io sono una sociologa dell'educazione, però più di sociologia che sicuramente conoscete, delle professioni, che studia proprio come, no, i funzionari pubblici fondamentalmente agiscono nei confronti di utenti e soggetti deboli, quindi non solo nei confronti, no? in questo caso degli alunni di origine immigrata.
E voilà. C'est un projet qui s'inspire principalement du cadre théorique della sociologia delle professioni. Qui se focalise justement sur finalement comment les fonctionnaires, on dirait en France les fonctionnaires, les employés de bureau, les enseignants, les conseillers d'orientation, ils interagissent avec des catégories spécifiques d'usagers, l'élève ou n'importe qui, etc.
E quello che emerge dalla street level bureaucracy, quello che emerge è che la discrezionalità chiaramente è molto più alta nei confronti di soggetti deboli che non sono capaci di o non hanno gli strumenti per negoziare i loro diritti, no?
E ce qu'il ressort effectivement est que le plus on est confronté à des usagers faibles, vulnérables, voilà, par exemple, plus les prises de liberté, disons les initiatives personnelles, les entorses à la règle sont importantes.
Per esempio, abbiamo casi di minori non accompagnati oppure minori rifugiati, eccellenti alunni che sono riusciti, accompagnati da alcuni professori, ad accedere ai licei e poi anche alle università.
On a également les cas de, disons, des jeunes, disons, qui d'un point de vue statistique avaient des chances très élevées d'échouer, de décrocher, mais qui par contre, ils se sont démarqués par des réussites brillantes, voilà, à l'université. Parce qu'en Italie, à l'université, ça veut dire que tu es très bon. Donc, voilà, je me permets de le souligner. Il n'y a pas les écoles, donc voilà.
E viceversa, la maggioranza dei casi, no, di negoziazione in cui questi ragazzi non hanno potuto avere accesso alla scuola o all'università in successiva proprio perché non sono stati sostenuti, non si è negoziato in maniera forte con gli insegnanti o con, no, per l'accesso all'università.
Mais d'autre côté, il y a quand même une proportion très importante qui, par contre, ont été victimes de leur statut vulnérable. Et donc, ils ont subi cette marge de discrétionnalité des fonctionnaires, des enseignants, etc. Mais ils l'ont subi et aussi parce qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour contrebattre. Voilà, mais ça, disons, nous, on l'avait déjà vu donc dans la sociologie des migrations en France. Donc, il y a c'est-à-dire pour les personnes issues dites immigrées, donc les détournements de la carte scolaire est beaucoup plus compliqué et rare par rapport aux non-immigrés. Donc, ça, voilà. Et c'est normal, à mon avis, qu'en Italie, on retrouve la même chose, même avec des temporalités différentes. Justement parce que le phénomène est différent.
L'ultima cosa che dico è questa, che sembra esserci un problema, no? Sempre di prima generazione che accede a un ambiente. Quindi il problema, certo, è l'essere immigrati, non essere immigrati, però anche essere il primo della propria famiglia che ha accesso all'università. Quindi in quell'ambiente, no, socioculturale, oppure il primo della propria famiglia che accede al liceo generale, in cui, no, si manifesta proprio questo, tutta una serie di difficoltà che sono connesse all'esclusione, no, di certi gruppi da delle filiere educative e poi anche chiaramente da delle possibilità, no, di inserimento corrispondente nel mercato del lavoro, no? C'è molta gerarchia, no? anche in Italia, insomma, delle filiere scolastico-professionali e poi delle università.
Bon, je pense que vous avez tous compris, non? J'ai eu le sentiment. Oui, Thierry?
Non, je voulais juste réagir, je trouve très intéressant les propos de Maria Grazia, parce qu'on fait les mêmes constats, en fait. On vient de terminer une étude comparative France-Québec sur le rapport au travail des jeunes en situation de vulnérabilité pour l'INGEP. Et on a travaillé aussi sur l'importance de la marge de discrétion des conseillers du niveau de la rue, c'est-à-dire les gens qui sont en interaction avec le public. Et c'est véritablement une question extrêmement importante. Et on voit effectivement que c'est vis-à-vis, comme en Italie, des populations les plus vulnérables, que les conseillers arrivent à se ménager dans des ambiances qui sont, et ça c'est vrai en France comme au Québec, dans des ambiances qui sont quand même très managériales, où il y a de plus en plus de pression, de contrôle sur les conseillers, ils arrivent quand même, face aux populations les plus en difficulté, à dégager des marges de manœuvre, à jouer sur les dispositifs, à les bricoler, à les tordre. Et ça pose une vraie question qui est celle d'une population qu'on a encore peu étudiée, qui est celle des managers intermédiaires. C'est-à-dire au-dessus des conseillers du niveau de la rue, il y a les directeurs de structure ou les responsables de service qui, eux, font une espèce de médiation entre les injonctions des donneurs d'ordre et la nécessité de cadrer l'action publique avec des recettes de management public de plus en plus fortes, et puis en même temps de permettre aux conseillers cette marge de discrétion qui est essentielle pour leur travail, en même temps de faire un peu d'absorber la dimension anxiogène du poids qui est mis par les donneurs d'ordre pour ne pas la faire peser sur les conseillers. Donc là, il y a un vrai travail sur lequel on a encore beaucoup, je pense, à progresser sur le rôle des managers de structure pour permettre ces marges de discrétion.
Intéressant.
C'est pas une question, c'est juste une réflexion. Je pense que la question de l'orientation et de la marge justement de manœuvre, donc, et nodal, c'est une question nodale. Et donc, en France, disons, je dirais que on est en train de l'aborder par un peu l'approche de la discrimination systémique, qui est en train un petit peu de se développer depuis peu. Depuis quelques années, etc., qui se focalise justement sur les rôles de l'institution dans la production des discriminations. Voilà. Mais bon, j'estime que l'approche de la discrimination systémique en France doit encore faire un effort pour débarrasser de certaines positions, peut-être idéologiques, certaines a priori, etc. Mais je pense que c'est là qu'il faut y travailler. Et je suis très, disons, enthousiaste d'apprendre que la même approche est en train de se développer en Italie. Donc, alors qu'en Italie, le thème de la discrimination, c'est très difficile à aborder. Voilà, il y a très peu de monde qui aborde cette discrimination au racisme. Donc, on vient tout de suite être taxé par des extrémistes de gauche, voilà, pour des raisons très complexes, d'ordre idéologique, voilà. Mais voilà, c'est une question relativement que c'est très important. Et c'est aussi intéressant le fait que, donc, effectivement, en France, on est confronté à un système d'orientation qui est vraiment imposé et coercitif. Donc, alors qu'en Italie, aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais jusqu'encore il y a quelques années, l'orientation scolaire en Italie, c'était la famille qui l'a. Donc, la famille s'est concertée avec les enseignants et après, elle disait, bon, écoute, mon fils, tu es très bon en maths, etc., va dans un lycée scientifique, etc., etc. Tu es plutôt bon en lettres. Mais il y avait une véritable concertation. Hein, donc, voilà. Alors qu'en France, j'ai le sentiment que l'institution scolaire a une véritable méfiance vis-à-vis des capacités des familles à dire leur mot sur l'orientation. Peut-être c'est un peu fort ce que j'ai dit, mais je l'ai un peu ressenti à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est partagé par mes collègues.
En France, les textes officiels ont sorti un terme qui s'appelle la coéducation. La notion de coéducation qui est censée rapprocher un peu plus l'école des familles, des parents. Alors, je ne vais pas revenir un peu sur les nombreux travaux dont on dispose qui montrent que dans les écoles, on a dérivé vers une lecture ethnicisante des problèmes. Hein. Je pense aux travaux de Jean-Paul Payet et d'autres, Daniel Tain, etc. Mais par contre, il faut savoir simplement qu'il y a eu une... puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la loi de 2013 sur la refondation, Thierry en a parlé sur le décrochage, et donc dans cette loi, il y a eu une expérimentation de la décision d'orientation venant aux parents. Alors je peux en parler, puisque j'avais piloté cette mission pour le ministère, et en fait, ce qu'on s'est aperçu, en fait, concrètement, c'est quoi cette expérimentation ? C'est qu'on donne aux parents la décision de choisir à la fin de troisième, quelle que soit la décision du conseil de classe. et ça a été expérimenté dans à peu près 400 collèges en France, hein, parce que c'était réglementé hein, quand on expérimente, de façon à ne pas rompre le principe d'égalité de traitement. Et donc, concrètement, j'ai vu des parents qui étaient au contraire inquiets qu'on leur donne cette liberté de choisir. Parce qu'ils vous disent, et pas n'importe quel parent, évidemment, les parents de milieu populaire, dont les parents issus de l'immigration, qui disent, mais finalement, vous nous donnez la liberté, mais pour être libre, encore faut-il qu'on ait des appuis, encore faut-il qu'on connaisse le fonctionnement. Et du coup, parfois, ça conduisait à une certaine autocensure. Donc, en fait, la liberté de choisir peut rivaliser avec les pires déterminismes. Du coup, c'était vraiment un élément qu'on a observé, mais on voyait bien que l'école est toujours embarrassée par la question de la place des parents, parce que notre système éducatif s'est construit aussi historiquement de façon spécifique, contre les parents, contre l'influence locale. Ce qui se pose problème, c'est qu'il y a des parents qui connaissent mieux le système que d'autres. Donc, du coup, la question de l'inégalité des chances reste encore posée, quoi. Mais on voit, par exemple, alors ça aurait pu être aussi un sujet, par exemple, sur les contestations de décision du conseil de classe par des parents de milieu modeste, elles sont aussi liées au fonctionnement de notre école. Parce que dans la mesure où tu dépossèdes des parents de la décision, qu'est-ce qu'ils pensent les parents ? Ben, ils disent que c'est l'institution qui choisit, c'est elle qui fait le bon choix. Donc, si jamais elle rate sa cible, ce sont des parents qui vont demander des comptes. Donc, en fait, là, parfois, ce qu'on appelle des conflits entre parents et école est aussi lié au mode de fonctionnement d'une école qui n'associe pas suffisamment les parents à la construction des parcours. Et les enseignants, la question qui a été posée par Thierry tout à l'heure, pense aussi que c'est un volet qui va être important. C'est comment les enseignants peuvent conseiller les parents tout en étant perçus comme ceux qui évaluent. Donc, ça pose quelques dilemmes à venir. Voilà, c'est pas une question simple, en fait.
Mais si je me rappelle bien, pour aller dans le sens d'Assise, Raymond Boudon, il y a bien longtemps, il disait que si on voulait rétablir l'égalité des chances, il valait mieux donner moins de poids au choix des parents. Parce que plus on donne de choix stratégiques aux parents, plus il y aura d'inégalités. Après, je ne sais pas s'il avait raison ou tort, mais au bout du compte, ça allait dans ce sens. C'est vrai, ouais, que si on donne trop de choix aux parents, on risque encore plus de produire d'inégalités. Donc, après, ça peut se discuter. Hein, mais c'est vrai qu'en même temps, l'école a un point en France, ça aussi, je suis d'accord avec Alessandro, qui ne laisse pas beaucoup de choix aux parents. Je ne sais pas où est la juste mesure, hein, entre les...
Mais même, il y aurait tant de choses à dire, parce que, par exemple, sur les pédagogies actives, est-ce qu'elles parlent à tous les parents, hein ? Il y a des parents avec une histoire ouvrière selon les parcours culturels, l'origine culturelle, par exemple, qui ne comprennent pas les pédagogies actives, en disant « le maître, ça doit être le maître ». Donc, parfois, il y a des malentendus, tout ça. Donc, en fait, ça ouvre, je trouve, très intéressant, parce que ça ouvre finalement différentes pistes d'interrogation sur les relations école-famille, pédagogie, l'orientation, le choix. J'ai vu des parents, par exemple, je prends un exemple très banal, mais quand les parents choisissent une option au lycée ou un enseignement de spécialité, ils ne le choisissent pas que pour des raisons d'efficacité dans l'immédiat, ça peut être aussi parce qu'ils voient bien qu'un enseignement peut aussi apporter autre chose de réussir scolairement. Faire du théâtre pour savoir communiquer quand on va faire une classe préparatoire, pour faire une école de commerce, je veux dire, il faut faire preuve d'une grande imagination pour avoir ce genre de réflexe, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est.
Et la question que pose Valérie Ehrlich, ça renvoie aussi à comment on équipe les parents. C'est-à-dire, c'est pas le tout de leur donner une responsabilité en matière d'orientation, mais il faut voir aussi après qu'est-ce qu'on met comme instrument à leur disposition. Il y a par exemple des choses qui ont été faites très intéressantes en Écosse en termes de diffusion d'outils d'aide aux parents pour orienter pour les aider dans l'orientation, parce qu'on sait bien, dans les enquêtes qu'on fait, on sait bien qu'à 60% les élèves déclarent que c'est les parents qui les ont aidés à s'orienter. Oui. Et se pose la question de qu'est-ce qu'on met comme outillage à leur disposition, et surtout comment on prend en compte dans cet outillage les différences de capital culturel, capital social des parents, et qu'on cible du coup des moyens d'information différenciés selon les parents.
Bien sûr, absolument.
Écoutez, c'est extrêmement passionnant l'échange. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou interventions.